Entrevue spéciale avec Frédéric Brunel, développeur d'applications mobiles.
Bonjour, ici Alexis Cornelier pour le podcast de Mac Québec. Je suis en compagnie de Frédéric Brunel, développeur d'applications pour téléphone mobile. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Donc Frédéric, tu es développeur d'applications mobiles depuis combien de temps?
Ça va faire depuis 2009 qu'on s'est lancé là-dedans. Juste après 2 ans que l'iPhone a été introduit, puis finalement 1 an après que le SDK ait été disponible.
OK. Avant, tu faisais quoi?
J'ai beaucoup travaillé dans des startups, toujours de l'high-tech. Je travaillais pour une compagnie qui s'appelle Extra Normal.
OK.
Je pense qu'on a entendu parler aussi de leur petit clip vidéo, donc on était dédié pour faire de la vidéo en ligne, mais bon.
OK. Donc, pour ce qui est des applications mobiles, ça fait 2 ans. Et c'est quoi la compagnie?
La compagnie où je suis partenaire s'appelle WearCloud.
Okay.
Donc nous, en fait, on fait des services de développement sur les plateformes mobiles. Donc on fait de la stratégie, du design produit et du développement produit pour des clients.
Okay. T'as-tu des exemples de clients?
Ben, récemment, on a fait une application pour Tango, une start-up sur Montréal. Plus précisément, on a fait aussi toutes les applications mobiles pour le groupe Pageant.
OK.
Tu vois, iPad, iPhone, Android, Windows Phone 7.
Des applications qui fonctionnent bien, je pense. On les voit dans les publicités. C'est pas mal téléchargé quand même.
Oui, en ce moment, il y a à peu près 2 millions de téléchargements sur ces applications-là.
Wow, quand même. Donc, quand même de la bonne distribution. L'application est gratuite?
L'application est gratuite pour le groupe parce que c'est leur business model n'est pas là à vendre l'application, mais ils ont un gros pourcentage de leurs recherches qui sont faites sur les terminaux mobiles maintenant. Donc, c'est pour ça qu'ils sont lancés dans l'aventure. Pour avoir quelque chose dont l'expérience utilisateur est la meilleure possible. Nous, on considère que c'est ça qui est vraiment le gros avantage de ces produits.
OK. Vous développez pour la plateforme iOS, vous développez aussi pour Android?
Aussi pour Android. On a fait une couple d'applications pour Android aussi.
Je peux-tu te demander ta plateforme de prédilection? Laquelle des deux tu chéris, tu aimes mieux?
Ben, pour l'instant, on va dire que c'est iOS.
OK. Pourquoi c'est une plateforme plus intéressante selon toi?
En fait, moi, je viens du jeu vidéo à la base.
Okay.
Donc, les plateformes qui sont natives, comme celle d'Apple, moi, je suis assez familier avec ça. J'ai fait beaucoup de web aussi.
Okay.
Mais la maturité de la plateforme, pour l'instant, n'a pas de comparaison là-dessus. C'est vrai qu'ils ont des outils pour beaucoup de développeurs web, c'est vraiment l'hérésie ou c'est vraiment le retour à l'enfer des applications lourdes. Mais ça permet quand même d'avoir accès à toutes les fonctionnalités du téléphone, à la programmation plus bas niveau, mais qui permet vraiment d'optimiser les performances vraiment précisément, ce qu'on peut pas vraiment faire avec toutes les plateformes. Toutes les plateformes n'ont pas ce niveau de maturité, ce niveau de toolkit, parce que Objective-C, Cocoa, c'est des technologies qui existent depuis 15 ans.
Okay.
La suite d'outils d'Apple est extrêmement mature là-dessus, et puis elle est vraiment cross-plateforme, parce qu'en fait, quand on développe de l'iOS, c'est comme si on développait du Mac aussi.
Okay.
Donc, ils ont vraiment des outils qui sont vraiment exceptionnels là-dessus. Et le framework est vraiment très puissant et très, très bien fait.
Okay. C'est pas nécessairement comparable. Android a quand même sorti ses outils récemment là, au niveau du SDK, je crois. Bon, c'est plus récent, mais est-ce que c'est prometteur?
Mais autour des outils d'Android, on reste toujours autour d'outils qui ont toujours existé avec la plateforme Java. Les outils de développement sont les mêmes que pour développer les applications Java.
Okay.
Le framework Android est spécifique à la plateforme, mais ils ont, c'est sûr qu'ils ont pris des bonnes idées à droite et à gauche, mais l'architecture elle-même de la plateforme fait que ça va mettre du temps avant d'avoir les performances qu'on peut obtenir sur un device comme iOS.
Ah, OK. Donc, ça va être au niveau de la performance qui va avoir une différence pendant encore un bon moment. On en a parlé un petit peu. J'ai envie de parler un petit peu du temps de développement, des difficultés qu'on peut avoir du côté du développement iOS, puis peut-être aussi au niveau du développement Android. C'est les deux grosses plateformes qu'on voit émerger en ce moment. Bon, Windows 7, qui est l'autre plateforme mobile, est-ce que tu as eu le temps de jeter un coup d'œil? Est-ce que tu t'intéresses à ces produits-là, soit ça ou WebOS?
Ben, en fait, WebOS, on avait téléchargé les émulateurs de Palm quand ils avaient sorti le WebOS, mais on n'a pas trop eu le temps de regarder ça. C'est vrai, comme là, ils viennent de lancer le touchpad avec la nouvelle version de WebOS. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que ça a l'air vraiment intéressant. Et c'est sûr que moi, je vois que là, les joueurs qui sont vraiment intéressants sur le marché, là, c'est sûr qu'il va y avoir 4. Apple, bien évidemment, Google, Microsoft, il ne faut pas sous-estimer là-dessus.
Mm-hmm.
Et puis moi, je pense HP a vraiment une carte à jouer aussi.
Okay.
Le point commun de toute cette plateforme, c'est qu'ils n'ont pas juste amené de la technologie, ils ont amené un écosystème de développeurs, des outils, des moyens de faire de la facturation, de l'intégration avec des services web ou des services comme Apple qui sont liés à leur propre store.
Okay.
C'est pas simplement de la technologie, c'est tout un écosystème qui arrive avec ces plateformes-là. Donc là, c'est intéressant.
Okay.
C'est pas juste de la technologie, juste lancée comme ça, dans laquelle on peut pas adresser vraiment bien son marché.
Moi, ce que je trouve peut-être intéressant de ce que tu dis, souvent on a tendance à dire qu'il va y avoir deux joueurs. Toi, tu dis qu'il y en aura quatre. Et des quatre que tu as nommés, bon, il y a Apple qui développe autant l'appareil, le hardware, que le software. Et il semblerait que HP ferait aussi la même chose. Est-ce que ça peut leur donner un avantage par rapport aux autres joueurs qui utilisent le système Android ou, les fabricants comme LG, Motorola, Samsung, qui utilisent soit Windows 7, soit Android pour mettre sur leur téléphone, mais eux autres ne font que fabriquer le téléphone. Puis, de l'autre côté, Google ne s'occupe que du développement logiciel. Est-ce que ça peut pas causer des problèmes? Éventuellement, on voit, en fait, peut-être le distillement du marché, qui est une des problématiques d'Android en ce moment.
Mais c'est vrai qu'en fait, l'intégration complète de la chaîne du hardware et software qu'a développé Apple, ça leur donne un avantage absolument incroyable, autant sur le prix que sur les avantages technologiques qu'ils peuvent avoir. Plutôt que de faire de l'intégration, ils vont tout designer bottom-up pour que tout marche, pour que le produit final fonctionne absolument très bien. Donc, ils sont capables de réinventer du hardware, d'optimiser toutes les choses. Le problème quand on prend des plateformes qui existent déjà, c'est qu'on est lié avec ça. Donc, le software va marcher, mais il n'est pas forcément parfaitement optimisé pour la plateforme. C'est ce qui se passe avec Android, c'est ce qui s'est toujours passé avec Windows, en fait, et des PC. Windows fonctionnait, mais plus ou moins bien. Tu vois. Apple ont toujours eu cette approche complètement intégrée qui leur a toujours donné un avantage de performance incroyable sur ces machines-là. Mais c'est amusant parce qu'en fait, il y a 20 ans, c'était un désavantage. Ça leur permettait pas de faire baisser les prix. Au contraire, c'était plus cher d'avoir cette approche-là. Mais avec l'évolution du mobile, c'est un avantage sur le prix qui est absolument incroyable. Donc maintenant, on se retrouve dans lesquels ceux qui, comme Microsoft d'il y a 20 ans, avaient des plateformes génériques sur lesquelles ils mettaient leur software, ils avaient un avantage de prix. Maintenant, c'est l'inverse, parce que tout le monde veut sa part du gâteau.
Okay.
Donc, quand HTC, ils vendent du Android, HTC, leur business model, c'est pas vendre du software, ils vendent du hardware.
OK, c'est intéressant ce que
donc,
tu dis.
Donc, eux, tu vois, et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, sur le même créneau, c'est pour ça qu'en fait, les téléphones n'ont pas forcément d'update à software. Pourquoi, en fait, HTC irait updater le software de Google?
Ce qu'ils veulent, c'est de vendre un nouveau téléphone et non pas que
t'aies
plus de fonctionnalités avec le même téléphone.
Exactement, ça ne l'intéresse pas. C'est l'approche du business model du carrier et du manufacturer qu'il y avait en 2001. Ils vendent, tu veux de nouvelles fonctionnalités, tu achètes un nouveau téléphone.
Et puis ça, c'est à cause du business model du constructeur, en fait.
Exactement, le constructeur n'a absolument aucun lien là-dessus. Alors, il y a des constructeurs qui essaient d'aller là-dedans. Peut-être que HTC va essayer d'avancer un peu plus, mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve qui montrerait qu'ils changeraient de stratégie. Eux, ils veulent vendre le plus gros stock de téléphones possible. Et Android, c'est gratuit, donc ça veut dire qu'ils augmentent leur marge. Mais ils n'ont aucun intérêt à faire suivre la plateforme. Et ça, c'est le gros défi de Google.
Okay.
Et c'est pour ça que Google, ils ont aussi leurs téléphones qu'ils ont certifiés, mais ils n'en ont que quelques-uns. Un téléphone certifié
le
Google,
Nexus,
c'est un téléphone...
Le Nexus One et le Nexus S, entre autres.
Oui, puis je crois qu'il y avait un Motorola ou un HTC très particulier dans lequel ils essaient de garantir des updates, mais pour l'instant, la stratégie n'a pas vraiment bien marché.
Bon.
Et Microsoft est aussi dans la même position. Mais quand ils ont dit aux constructeurs, donnez-nous des téléphones, puis nous, on va garantir, comme Apple, les mises à jour du système, ils ont vendu quelques téléphones là, mais je pense que les constructeurs, ils ne sont pas d'accord avec ça.
OK.
Et c'est pour ça que je pense que Microsoft aussi essaie de se lier avec Nokia, par exemple, dont on entend parler, pour avoir un partenaire hardware fort, parce que Nokia est très bon là-dedans, ils sont pas bons en software.
Non,
et c'est l'inverse de Microsoft. Donc, ce partenariat-là pourrait aussi marcher.
OK. Oui, voilà. Effectivement.
Parce que là, ils pourraient changer de business model. À eux deux, ils pourraient avoir un business model qui fait du sens. Et HP a pris la même course que Apple. Ils font de l'intérêt. Ils se sont rendus compte que c'est le seul moyen d'avoir de l'innovation, de l'intégration du hardware et du software en même temps.
Parce qu'au prix qu'ils vendent les téléphones, ce serait pas acceptable, ou en fait, à long terme, c'est pas vraiment acceptable de payer un 500-600 $ par année, parce que là, vient le problème des carriers qui, eux, veulent lier, en fait, la baisse de prix du téléphone à un contrat d'environ 3 ans. Donc, on peut pas changer de téléphone aux années, puis les innovations sont tellement importantes. Moi, ce que je voyais, c'est que la vitesse des processeurs, contrairement à la plateforme, aux ordinateurs portables, l'augmentation d'un ordinateur portable d'une génération à une autre est de 20%, alors que sur un portable, c'est environ de 50% ou même plus que ça. On est à 1 GHz en ce moment. Les prochains téléphones qui sortent, ça va être des double cœurs à 1 GHz, donc théoriquement deux fois plus rapide, en quelque sorte.
Mais c'est ça. Mais ça qui est vraiment intéressant sur cette nouvelle génération de machines, c'est que le fait qu'on soit séparé du couple Intel-Windows, on se retrouve avec des compagnies comme ARM, par exemple, qui ont des processeurs, des designs de processeurs extrêmement intéressants et qui finalement, eux, gagnent vraiment en puissance. Et je pense que l'innovation qui est capable de faire ARM, plus l'approche intégrée de Apple, ça va aller beaucoup plus vite que le PC. Le PC a été dans des années d'obscurantisme avec Intel, Windows. On a toujours les mêmes types de machines. Et même Intel, la preuve est que ces compagnies n'ont pas fait grand-chose ces dernières années, et même ces 10 dernières années, puisque Intel est incapable d'avoir des processeurs mobiles aussi puissants qu'un ARM avec aussi peu de consommation. Ça veut dire que pendant des années, ils ont profité de leur avantage de monopole pour ne rien faire, juste vendre des CPU avec un peu de puissance. Mais quand on leur demande de se réinventer, ils sont incapables. Ça veut dire qu'ils n'avaient vraiment même pas prévu cette éventualité-là. Et Microsoft a le même problème.
C'est pour ça peut-être qu'il vient d'avoir une annonce comme quoi Microsoft allait fonctionner sur des processeurs ARM. Donc récemment, on a su ça au CES et qu'il allait avoir des systèmes on-chip. C'est-à-dire que Windows allait fonctionner sur ce qu'on appelle des systèmes on-chip, donc des petites puces qu'on pourrait installer dans à peu près n'importe quoi et sur lesquelles Windows serait déjà préinstallé, si je comprends bien.
C'est ça. Ils ont vraiment pas le choix, mais même eux n'avaient pas prévu cette éventualité-là. Et quand ils ont dit que Windows 8 tournerait sur ARM, ça va leur prendre 2 ou 3 ans de travail. Ce qui est vraiment phénoménal.
Quand même. Pour revenir à ma question initiale, parce qu'on vient quand même de bifurquer. C'était super intéressant. Parler du temps de développement pour une application, les difficultés de part et d'autre. On entend quelquefois parler des développeurs pas trop contents parce que leur application a été refusée, de dire on commence une application puis on ne sait pas si elle va être acceptée ou rejetée par Apple. Est-ce que tu as ce feeling-là, toi, sur iOS?
Pour te répondre de suite sur l'approbation d'Apple, nous, on n'a jamais eu vraiment de problème.
En suivant les guidelines, on ne devrait pas avoir de problème, théoriquement.
Comme disait Steve Jobs, là-dessus, il avait raison. Il disait, si en fait vous avez le sentiment que vous êtes borderline, c'est que vous devez sûrement l'être.
C'est bon.
Tu vois? Et en fait, c'est vrai, il y a des fois, effectivement, on sait très bien que Apple, ils protègent leur plateforme. On peut pas vraiment leur en blâmer parce que je pense que n'importe quelle compagnie qui se trouverait dans la même situation que Apple à l'heure actuelle, ferait exactement la même chose. Donc, bon, voilà. Mais c'est sûr que si on se retrouve sur le chemin d'Apple, c'est-à-dire si on essaie de faire des logiciels concurrents aux leurs, si on essaie d'inventer des business models qui ne fitent pas dans celui du App Store, si on essaie de mettre du content où on sait très bien que c'est pas du content grand public, on va avoir des problèmes. C'est sûr que là-dessus, il va se poser des questions. Après, ils en laissent passer certains quand ils décident que c'est des petites niaiseries et ça va faire du mal à personne. Hein. Tu vois? Mais en fait, si tu fais 80, on va dire 99% des applications qui se trouvent dans le juste milieu, n'ont absolument aucun problème. Quoi. D'ailleurs, la plupart du temps, Apple approuve ça en moins d'une semaine. On n'a plus du tout de problème là-dessus. Et justement, au final, le fait que l'App Store soit aussi profitable, c'est qu'Apple, grâce à leur niveau d'approbation, ils ont gagné la confiance des utilisateurs. Et c'est pour ça que les utilisateurs achètent. C'est pour ça que les utilisateurs ne se posent pas de questions à savoir est-ce que je vais dépenser tant ou cent, ils achètent. Et puis généralement, ça marche comme l'application
est prévue. Oui, parce qu'elle a été testée, parce que Apple a dit oui sur cette application-là.
Exactement, quoi. On se retrouve finalement dans le même business, parce que beaucoup de gens, surtout du web, parce que le web a changé un peu les mentalités, mais finalement, le reste de l'industrie marche comme ça. Tu vas dans le jeu vidéo, si moi je veux soumettre un jeu vidéo pour Xbox, je passe par un système qui s'appelle Approval de Microsoft, de Sony ou Nintendo, et mon jeu n'est pas approuvé. Pour être gravé et disponible sur Xbox, il faut un temps d'approbation qui est plusieurs mois.
Pour avoir passé brièvement chez Ubisoft, des jeux, surtout pour la Wii, comment le logo Nintendo apparaît, tout ça, c'est des guidelines des compagnies. Puis oui, tu as raison, c'est effectivement la même chose.
C'est pareil, puis t'imagines que par exemple, quand tu veux faire une update sur le Xbox Live, moi je sais que Microsoft va te charger à peu près 30 000 $ si tu dois updater ton binaire sur le Xbox. Parce qu'ils veulent empêcher que les gens produisent de la marge, c'est tout, quoi. Donc ils disent, réfléchissez-y à deux fois, on a un joker, si vous voulez, mais si vous voulez patcher votre binaire, il faut que vous nous payez 30 000 $ pour qu'on fasse votre update. C'est ça. Mais au final, quand on vend un jeu 70 $ on peut pas se permettre que ce soit n'importe quoi.
Donc au niveau du temps de développement pour une application, là.
Ben évidemment, ça va dépendre de l'application, mais généralement, nous, ça peut évoluer entre 3 semaines, on va dire, et puis 2 mois. Entre vraiment la personne qui vient nous voir et dans laquelle on va faire le design, on va faire des prototypes, on va livrer une application, on va faire le QA, tout le test, plus aider la personne à soumettre jusqu'au App Store, on peut avoir jusqu'à 2 mois, tu vois. C'est pas des grosses applications, mais c'est quand même des logiciels, en fait, tu vois. Moi, je fais la différence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant, on veut une application iPhone, avec l'idée que c'est un website ou des choses comme ça, mais finalement, c'est un vrai logiciel, tu vois. Le browser, c'est ton engin. Tu vois, c'est ton engin qui interprète ton content qui est du HTML, du JavaScript et qui le monte. Donc là, le développeur n'a pas vraiment à travailler avec du bas niveau, à se soucier de la gestion des ressources. Tu fais ton content, le browser va à peu près se débrouiller. Sur l'iPhone, si tu veux, t'as pas le browser. T'as pas cette couche-là qui est ce que j'appelle l'engin. Donc t'es vraiment ras du métal, il se passe rien. Donc dès que tu vas afficher du content, c'est à toi de tout travailler. Apple a des composants visuels, mais la gestion des ressources, l'optimisation de la bande passante, l'optimisation du visuel, le fait d'avoir des animations à 60 frames secondes, il faut des grosses connaissances quand même avancées en multimédia. Donc, généralement, en fonction de la complexité, on peut avoir entre 1 et 3 mois. Ouais, généralement, c'est 1 ou 2 développeurs maximum. Mais nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé de la technologie pour nous aider justement cette base d'engin qui est comme un browser multimédia, si tu veux, on réutilise des briques.
Mais une application peut coûter environ combien à faire développer là? Moi, j'ai envie de me faire faire une application pour rapatrier en fait tous mes contenus. Quelqu'un téléchargerait une application Alexis Cornelier là, où est-ce que j'aurais mes Twitter, mes podcasts, mes trucs comme ça. Ça peut coûter combien à développer?
Ben, quelque chose comme ça, on va dire. Tu vois, c'est sûr que là, tu serais entre 5 000 $ et puis tu peux monter jusqu'à 80 000 $, même peut-être plus. Bon, une application vraiment high-end, iPhone, iPad, qui a beaucoup de multimédia, beaucoup d'optimisation à faire. Tu vois, par exemple, un magazine comme le Daily, c'est une application qui va coûter des centaines de milliers de dollars.
Ils ont dit 30 millions de dollars d'investis dans le projet.
Voilà, dans le projet, mais l'application a dû coûter très cher.
Si on prend l'exemple du Daily, là, qui est une application qui était censée révolutionner le monde du journalisme, tout ça, et qui est un projet de Rupert Murdoch, si je me trompe pas, qui est sorti tout récemment au Canada. On parle d'un système, je pense, c'est avec l'introduction du système d'abonnement à la semaine à 99 sous pour les 5 ou les 7 périodiques, on va dire, puisque c'est un mélange entre un magazine et un journal. Qu'est-ce que tu en penses de l'application?
Ben, techniquement, l'application, moi, je la trouve pas géniale. Elle fonctionne, mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que ce soit Apple qui ait développé ça. Donc, je pense qu'Apple a apporté juste ce système de souscription, mais l'application a été développée en interne par chez eux. Donc, c'est pas le meilleur que j'ai vu. Pour l'instant, finalement, ça reprend vraiment un magazine.
Est-ce qu'il
n'y
a pas une problématique, justement, à essayer d'imposer un média traditionnel sur la tablette? Donc, de prendre le concept de dire un journal, un magazine et essayer de l'adapter sur l'iPad, alors qu'on voit des applications comme l'application qui va prendre ton Facebook, Flipboard, ou encore le lecteur RSS Reader, que je trouve incroyable pour lire des nouvelles. Bon, il y en a d'autres, des applications dans le même genre. Pulse, entre autres, si je ne me trompe pas. Est-ce que ce n'est pas des plateformes qui sont plus adaptées justement à la vie numérique, à la consommation de contenu numérique, que d'essayer de prendre ces vieux canevas-là puis de les adapter?
Ben écoute, moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Parce que moi, ma consommation des news, c'est pas lire un journal complet. Généralement, je lis pas le New York Times, mais je vais lire des articles du New York Times. Et en fait, moi, je trouve des applications comme Flipboard, des choses comme ça, ça te permet vraiment de concevoir ton magazine à ton goût, avec des articles qui proviennent de plein de sources et de les réadapter là-dessus. Que moi, je regarde le Daily, il y a plein de choses qui m'intéressent pas, moi, là-dedans. Donc, pourquoi je vais aller m'abonner à ça si je vais lire juste qu'une rubrique, par exemple? Pourquoi les journaux ne deviendraient pas des sources? C'est pas ce qu'ils veulent faire, mais moi, je pense que le futur serait inévitable là-dessus. Tu vois, pourquoi moi, je pourrais pas m'abonner qu'à la partie techno du New York Times? Et moi, je m'en fous du reste.
Ben, pourquoi on pourrait pas s'abonner directement à des journalistes?
Exactement, tu vois, finalement, je pense que tous ces vieux médias ont un business model dans lequel ils avaient leur agence, leur journaliste à l'intérieur. Nous, ça, on serait intéressé d'avoir l'avis de tel journaliste ou de... Un peu comme si vous, dans iTunes, avant, si on aimait une chanson, il fallait acheter tout le CD. Mais dans iTunes, maintenant, moi, je peux acheter qu'une chanson. T'as l'impression que sur Internet, c'est plutôt comme ça.
Ils veulent pas vendre leur album sur Internet en prétendant que eux autres, c'est des grands artistes et que tout l'album se tient ensemble, que c'est un concept. Ça peut être valable, par exemple, pour certains CD de, je dirais, Pink Floyd ou des trucs comme ça. Je suis pas sûr que Keisha ou Britney Spears puissent aspirer à la même chose.
Exactement. Il y a toujours des exceptions. C'est sûr que quand tu vas acheter un livre, tu vas pas lire que quelques pages. Oui. Hein, tu vas prendre l'ensemble. Mais c'est vrai que pour des magazines, là, pour l'instant, je suis vraiment pas convaincu. Mais le problème, c'est que je pense que c'est même pas un problème technique. Ils essaient de résoudre un problème de business model avec un problème technique, en se disant cette plateforme-là. Mais finalement, ce médium-là, c'est le même. Là, il représente en digital exactement la même forme que leur édition.
Et ben, je pense que c'est ça comme si c'était des médias web 0 qui essayaient de se transformer en web 2.0, j'ai l'impression. Alors que nous, on est en train d'aller vers le web 3.0 avec toute la sémantique, la curation, je sais pas comment le dire en français, je pense que c'est ça, curating, parce que là, on est abonné à des centaines de feeds RSS, on lit des nouvelles 3 et 4 fois parce qu'elles sont diffusées sur différents sites web auxquels on est abonné, mais là, on s'en va vers quelque chose qui va justement faire un filtre de tout ça, puis nous présenter en fait les plus pertinents là-dedans, alors que le magazine reste de l'information générale, puis il faut tout le consommer pour aller chercher
ben, c'est
ces morceaux qui aurait pu nous intéresser dedans.
C'est ça, tu vois, moi, ça fait des années que je suis plus abonné à des magazines. Avant, j'ai acheté des magazines de jeux vidéo, des choses comme ça, mais maintenant, tu trouves tout en ligne et tu vas directement à là où ça t'intéresse. Tu es intéressé à tel jeu, tu le cherches sur Google, ouais, tu tombes sur un article de review, puis c'est fini. Puis la plupart des magazines de jeux vidéo ont disparu au profit de sites web spécialisés qui font juste que ça, IGN, tu vois, Game Cult, et puis des trucs comme ça. Il y a juste que les médias traditionnels qui n'ont pas encore voulu faire le pas, mais je vois pas comment ils arriveraient à conserver ce business model, cette façon de faire. Donc là, pour l'instant, on va dire que les iPad apps, moi, je trouve que, bon, j'ai pas été impressionné.
Ce que je vois à chaque fois, c'est ces médias-là, un peu comme l'industrie de la musique, qui gueulent, qui perdent de l'argent à cause de la piraterie, les magazines, les médias, tout ça. J'ai l'impression que c'est des maréchals ferrants du début du siècle, des gens qui faisaient des sabots pour des chevaux. Puis, quand ils ont vu les automobiles arriver, ils ont dû faire un peu la même chose. C'est-à-dire, non, ça marchera pas, tu peux pas faire ça, t'auras pas de gaz partout, ça va être, tu sais, c'est quoi? Pour essayer de dénigrer plutôt que d'essayer, eux, d'évoluer dans le sens de l'évolution technologique qui se passait à ce moment-là. Fait qu'il y a des compagnies qui sont mortes à cause de ça, puis j'ai l'impression que c'est un peu ce qui va se passer à ce niveau-là.
Ah, mais c'est ça, c'est inévitable. Dans tout ce qui a changé, les devices mobiles et puis toute cette génération de machines, c'est en train de bouleverser plein d'industries qui résistent vraiment et qui essaient de se protéger soit par la loi, comme les carriers, ils essaient de se couvrir par la loi pour empêcher de faire entrer des concurrents.
Un peu comme ce qui se passe avec Bell ou CRTC, avec la facturation à l'utilisation.
Donc, alors eux, par exemple, ils ont été malins. C'est-à-dire qu'eux, ils savaient que ce temps viendrait. Donc, ça fait 10 ans qu'ils travaillent à se blinder auprès de la loi pour savoir que le jour où il y a un concurrent qui arrive, il pourra pas rentrer. Et puis après, t'en as d'autres, c'est pareil. Ils essaient de chasser les pirates ou de faire peur aux gens en disant que c'est pas bien de faire ça. Mais finalement, ça va finir par passer d'une façon pour une autre. Tu vois, c'est ce qu'avait dit Steve Jobs. Il a dit le problème du piratage de la musique, c'est pas parce que les gens voulaient pas payer. C'est pas vrai. Il a d'ailleurs prouvé que c'était pas le cas. Il a dit c'est juste parce que c'est plus facile.
Exactement. En fait, c'est ce que j'ai lu récemment. Là, il y a un modèle d'affaires qui est plus intéressant que le gratuit, et c'est le facile. Je pense que c'est John Gruber qui écrivait ça, qui l'avait pris probablement de quelqu'un d'autre. Ouais. Mais pendant un bout de temps, effectivement, ma musique, je la consommais illégalement. Puis là, il y a comme tranquillement là, un chiffre qui se fait, et on commence à consommer beaucoup plus sur l'iTunes Store, sur Netflix récemment, là, qui est vraiment beaucoup plus facile.
Ouais, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai un Apple TV chez moi, et puis en fait, moi, je loue des films, alors que jamais je serais allé chez Blockbuster pour prendre un DVD. Quoi. C'est trop compliqué, c'est trop loin. Ils ont pas la sélection, donc du coup, je vais aller télécharger, je vais aller faire un torrent. Et là, finalement, comme là, c'est sur ma TV, je le prends, je loue, c'est en HD. OK, je paye 3 pièces.
Qui produisent la télévision et qui te fournissent ton Internet, qui, à cause de la convergence, sont en train de perdre de l'argent du côté télévisuel, puis veulent te charger plus cher pour ton Internet parce que, oups, tu commences à consommer de la télévision. En tout cas.
Ah non, mais ça, c'est ça. Mais ça, c'était évident. Et c'est pareil, ces mêmes compagnies se sont aussi blindées il y a des années auprès de la loi et tout ça pour pouvoir faire passer des choses parce qu'ils savaient très bien que ça allait arriver. Ils savaient très bien que c'était juste des fournisseurs des dumb pipes. Et puis que finalement, ils allaient se transformer en juste fournisseurs Internet. Ils ont essayé toujours tout ça, même les carriers, à essayer de produire des services à valeur ajoutée au-dessus de leur réseau, sans finalement y arriver, quoi. Et tout le monde veut les considérer comme des pipes. Donne-moi de la 3G, je te paye un forfait fixe, et puis je consomme à travers ton tuyau.
Donc, si on retourne à notre sujet principal, on s'écarte, il y a beaucoup de discussions à faire, puis c'est sûr que quelqu'un qui développe comme toi est beaucoup, beaucoup dans ces questions-là. Ta vision sur, je pense qu'on en a parlé un petit peu, ta vision sur quelle plateforme restera? Les deux plus grosses, c'est Android. Non, je pense qu'on a déjà parlé de cette question-là.
Bon, en fait, on en a parlé un peu, mais c'est vrai que moi, ce que je trouve amusant, c'est que finalement, après 10 ans dans le mobile, finalement, on retrouve les trois gros, quoi. On retrouve Apple, comme à l'époque du desktop. On va retrouver Microsoft, inévitablement, ils n'ont pas le choix. Et puis, on va retrouver Linux avec Google. Donc, finalement, on se retrouve avec les trois plateformes desktop qui ont fait leur chemin dans le mobile et qui ont poussé, finalement, tous les acteurs du marché qui étaient là.
Mais qui se sont peut-être échangé un petit peu les rôles, dans le sens où le gros méchant, c'était Microsoft avec Windows. Là, le gros méchant, c'est plus Apple avec iOS, parce que l'environnement est fermé, parce qu'ils veulent tuer Flash. Windows, qui est arrivé avec quelque chose d'assez frais en termes d'interface graphique puis d'idées, on voit qu'il commence peut-être à se réveiller après, 10-15 ans d'inaction. Puis Google qui essaye de faire son petit nouveau, peut-être le Apple à certains égards, mais Android qui est aussi une plateforme ouverte. puis qui va éventuellement avoir des problèmes au niveau de la sécurité, peut-être un peu plus que ce que Apple pourrait avoir, non?
Bah, je sais pas vraiment. Je pense pas que ça va être leur plus gros problème. Parce qu'honnêtement, tu sais, la sécurité, c'est pas passé open source, au contraire. Ça a été plutôt les gros avantages de l'open source, c'est que des hackers puissent squasher des bugs de sécurité
dans des malwares open source. Puis des cochonneries. Non, moi, je pense sur que le magasin en ligne, parce qu'il est ouvert à tout le monde.
Ben, c'est ça. Ben, ça fait partie des problèmes qu'ils vont devoir régler d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est sûr, Google va devoir trouver un moyen de faire ça. Parce qu'à l'heure actuelle, à cause de ça, leur magasin en ligne, les gens n'ont pas vraiment confiance là-dessus. Apple a montré que c'est toute une question de confiance autour du magasin en ligne. C'est beaucoup de gens, finalement, acheter quelque chose en ligne. Ils ont toujours besoin d'être rassurés que ça marche bien, qu'on va pas leur casser les choses. Puis là-dessus, Google a rien fait. Mais moi, je suis pas certain que ce soit la bonne solution, quoi. Mais il y aurait quelque chose à faire d'ailleurs. En plus, Google l'a fait. Hein. Ils ont enlevé une application qui marchait pas, ou je sais plus ce que c'était, c'est Conglomerate ou je sais pas quoi là. Ils ont enlevé une application récemment sur le store. Okay. Donc ils le font.
Puis je crois que autant une plateforme que l'autre peut le faire même à distance. C'est-à-dire que s'ils veulent vraiment effacer, il y a des gens qui ont dit qu'il y avait des systèmes là où est-ce qu'ils pouvaient annuler une application à distance s'il y avait eu une problématique ou quelque chose. Moi, je les ai jamais vus les utiliser un de l'autre. J'ai vu Amazon utiliser un système semblable pour enlever un livre dont ils n'avaient pas les droits.
Aucun c'est vrai, je m'en rappelle de ça.
Ils ont vraiment utilisé ce système-là, s'il existe. Là, on nous dit qu'il existe, mais ils ne l'ont jamais utilisé. Même s'il y a des applications sur lesquelles ils auraient pu le faire, là, entre autres VLC, qui est une application que du code source, open source, a été pris, a été travaillé par quelqu'un d'autre. Puis en général, je pense autour du code open source dans la plateforme iOS. Peux-tu nous en parler un peu plus?
Tu veux dire sur l'App Store et mettre des logiciels open source là-dessus? Apple, ils n'ont vraiment pas de problème. Ils mettent ce que tu mets tant que ça respecte leur guideline à eux. S'il y a des problèmes de licence, c'est entre la personne qui a diffusé ce contenu-là et le propriétaire du code source. C'est exactement ce qui s'est passé sur VLC. C'est pas Apple qui a dit Non, vous n'avez pas le droit. Apple les a dit, c'est très correct ce logiciel-là. C'est juste que les gens du GPL ont dit, non, c'est pas compatible avec l'App Store parce que la personne n'avait pas le droit de le mettre. C'est que dans le GPL, dans la licence open source, les gens doivent avoir accès au code source de l'application, obligatoirement. Et quand tu es sur l'App Store, effectivement, quand tu as une application sur l'App Store, tu peux pas la télécharger autre chose que sur un téléphone mobile. Une fois que tu es sur le téléphone mobile, tu n'as pas accès au code source de l'application. Mais le développeur s'est défendu là-dessus en disant, il n'y a pas de problème, vous venez sur mon website.
Je donne un autre exemple, l'application Il Sans Fil, l'organisme à but non lucratif de Montréal qui aide les gens à avoir l'Internet sans fil. Le code source est ouvert. C'est quelqu'un d'ailleurs, je pense, qui travaille maintenant avec vous, qui a initié le projet, Olivier. Et donc l'application est à code source ouvert, mais elle est distribuée sur le iOS. Il n'y a pas de problème, Apple ne nous a pas éjecté. Puis je me posais des fois la question si justement ils pouvaient le faire en disant ben c'est de l'open source, fait, théoriquement tu peux pas être sur le Apple Store.
Non, ça c'est pas vrai. Généralement en fait Apple franchement il va pas faire, ils vont aller réagir à une plainte si franchement des gens viennent se plaindre, là ils vont investiguer à l'intérieur, hein, mais ils vont pas le faire d'eux-mêmes là-dessus. Tu vois, pour eux ça leur passe pas de problème vraiment. Puis en plus, tu sais, il y a eu des débats autour de VLC, comme quoi c'était valable ou pas. Je pense que ça a été vraiment du pinaillage là-dessus. Parce que le problème, c'est que je comprends la philosophie derrière le GPL et tout ça. Le développeur a fait le maximum qu'il pouvait dans les contraintes de la plateforme. Et puis le code source était disponible sur son website. C'était juste que les utilisateurs, à travers l'App Store, effectivement, ils ne peuvent pas récupérer un binaire de l'application et le code source dans l'App Store. Effectivement, c'est une des contraintes. Puis tu vois, ce qui s'est passé derrière, c'est qu'ils ont fait plus de mal que de bien, parce qu'il y a plein de gens qui se sont plaints en disant que l'application était géniale, c'était une grosse promotion pour VLC, et finalement, ils l'ont retiré sur cet argument-là, et du coup, c'est disponible pour plus personne. Et sur le web, il n'y a plus une grosse flame war là-dessus en disant que c'était stupide. C'était stupide parce que sous la promotion du free et ce genre de logiciel, finalement, la liberté, ils l'ont retiré à la personne qui a diffusé ça. Et le projet, finalement, il va s'en retrouver entaché.
Pour ce qui est de l'application dont je parlais, de Il Sans Fil, le code, nous aussi, était disponible en open source. Et Québec et Sherbrooke sont en train de développer leur propre application pour leur service à eux, à partir du code qui a été développé à Montréal. Donc, nous, on est très contents de ça. En fait, Il Sans Fil est un organisme très open source.
Mais sinon, tu vois, l'open source, comme tu dis, c'est pas le free software. Tu vois, tu as des licences compatibles, mais pas forcément les mêmes. Donc, si on veut s'éviter ces problèmes-là, on choisit une licence qui est plus permissive que le GPL, tout en restant de l'open source.
Il y a des niveaux, Il y a des niveaux au niveau de GPL aussi. Tu vois, GPL 2, GPL 3, il y a Apache, d'après ce que je connais.
Exactement, c'est Apache. Apache, ils ne te poseront aucun problème là-dessus parce qu'ils n'ont pas la contrainte de redistribution. Donc, mais par contre, quand tu es sous licence Apache, tu es quand même aussi en open source. Donc en fait, tu distribues ton logiciel sous licence Apache et tu n'auras aucun souci. Tu vois, si vraiment c'est un problème, il y a vraiment moyen de choisir la licence qui est bien adaptée et compatible
en fait,
avec Apache.
Avant de passer à ton sujet que tu voulais nous apporter, est-ce que les deux plateformes, si on parle d'Android et iOS, c'est bien différent? Ou tu parlais tout à l'heure de Java, tout ça. Est-ce qu'il y a du code que tu peux réutiliser d'une plateforme à une autre? Ou quand tu fais une application pour l'un et pour l'autre, tu es obligé de partir from ground puis de développer différemment d'une plateforme à l'autre?
Ben, c'est ça, en fait, le gros souci qu'on a. C'est qu'en fait, finalement, les plateformes sont absolument pas compatibles. Okay. Aucune des quatre n'est compatible. Même aucune des cinq. HTML, le web, WebOS, iOS, Android et puis Windows Phone 7 sont absolument pas compatibles. Donc, en fait, tu peux pas porter du code comme ça. Alors, effectivement, sur Android, ils ont sorti un SDK natif, mais surtout orienté pour les développeurs de jeux vidéo qui ont besoin de performance et pas forcément besoin d'utiliser les composants UI du framework. Ils vont utiliser l'écran complet en OpenGL et puis voilà. Mais si par exemple moi je peux pas de façon simple porter du code iOS sur Java.
Il y a eu une polémique au niveau d'iOS où est-ce qu'il commençait à avoir des plateformes de développement sur Internet qui te permettaient de développer des applications mobiles, puis eux disaient nous autres on va faire que ton application elle fonctionne sur toutes les plateformes. Et Apple en fait a rajouté dans ses guidelines qu'on pouvait pas utiliser dans une plateforme comme ça parce que eux leur peur c'est que le développement d'une plateforme comme ça, ne pouvaient pas aller chercher toute l'innovation qu'eux mettaient dans leur téléphone. Donc, s'ils rajoutaient un capteur de tel truc ou un autre type de capteur, ben ils pensaient pas que, vu que ça n'existait pas sur d'autres téléphones, est-ce que je me trompe ou c'est quelque chose qui ressemblerait à ça?
Non. Mais en fait, ils ont un peu assoupli les règles. Ça fait qu'on peut utiliser ce genre de plateforme. Mais moi, d'expérience, moi j'ai fait beaucoup de, tu vois, beaucoup de portages entre des plateformes, des choses comme ça. Java, ça a été un des premiers, à offrir quelque chose de cross-plateforme. Est-ce que tu as déjà utilisé une application desktop Java qui ressemblait à quelque chose de ta plateforme? Est-ce que tu as été eu plaisir à l'utiliser? Généralement, en fait, la plupart des utilisateurs, ils veulent que ça marche sur la plateforme. Et d'ailleurs, l'intégration avec la plateforme, c'est ça qui fait la force d'une plateforme aussi. Donc oui, effectivement, pour les développeurs, c'est un problème. Mais pour les développeurs, pour les users, ils ne voient aucune différence. Et au contraire, toutes les plateformes que j'ai vues, tous les environnements qui étaient cross-plateformes, généralement, ça nivelait par le bas, ça utilisait en fait le dénominateur commun de toutes les plateformes. Ça fait que l'application n'était pas à la maison sur un Android ou sur un Apple.
C'était intéressant de nivelé par le bas parce que justement, ça semble pas être ce que Apple veut. Ils sont arrivés en 2007, puis quand ils ont lancé le téléphone, j'ai l'impression que j'ai, c'est que tous les fabricants de téléphones, tous les gens qui étaient dans ce domaine-là, ont littéralement chié dans leur culotte parce que il y avait pas de développement. Le téléphone qu'il y avait à l'époque, c'était un Moto Kaiser de Motorola, alors que Motorola s'apprêtait pratiquement à laisser tomber le développement de téléphone parce qu'ils aimaient pas ça, ils faisaient pas assez d'argent. Puis là, Apple arrive avec ça qui est un produit à des années-lumière. Les compagnies ont pas de développement ou de projet en développement pour essayer de rattraper ça. RIM qui est obligé de travailler pour sortir le Storm alors qu'eux autres auraient continué pendant des années à développer un petit téléphone avec un petit clavier en avant, pépère, puis rajouter des fonctionnalités puis faire ça plus beau. J'ai l'impression qu'Apple est venu donner un coup de pied dans ce développement-là.
Ah non, mais ça c'est sûr, mais tu vois, moi j'étais dans le mobile aussi en 2001 pendant longtemps, et à l'époque, la plateforme de prédilection de travail, c'était J2ME, qui était vraiment une plateforme Java aussi, pareil, comme Android, sauf qu'elle était spécifiée par un consortium industriel, et pouvais rien faire, c'était vraiment nivelé par le bas, et c'était une catastrophe, quoi. Donc il y avait des problèmes de compatibilité, il y avait exactement un peu ce qu'est Android, mais quand même Android est un peu au-dessus de ça, là on pouvait vraiment rien faire, c'est vraiment une catastrophe. Et puis Apple veut pas ça. Apple veut des applications de haute qualité. Ils veulent que les développeurs s'investissent. Et en fait, eux, ils sont convaincus que des frameworks cross-platform ne permettent pas d'obtenir la qualité qu'eux veulent. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la UI, c'est pas portable. Tu peux porter du code, tu peux très bien imaginer, mais la UI, les paradigmes d'interface utilisateur sont différents dans les plateformes. Et quand tu fais une application entre Android et puis Windows Phone 7 et iOS, les paradigmes des plateformes sont différents. Donc, il faut les embrasser, il faut vraiment utiliser ça pour avoir une application qui s'intègre parfaitement bien avec le système. Et c'est là où tu vas avoir une application à succès. tu vois. Et utiliser quelque chose de cross-platform, t'as aucune garantie comment ça va marcher. Si par exemple je slide de gauche à droite sur iOS et que sur Windows Phone 7 c'est des panes qui slide différemment, est-ce que le système va s'adapter tout seul? Le système peut pas prendre de décision de design. Donc, comme j'ai vu dans beaucoup de frameworks cross-platform, et quand j'ai posé la question, on m'a dit, j'ai dit, ok, mais je suis sur Windows 7, je veux faire un cap spécial. Ah, il faut faire un if dans le code. Ben oui, mais dans ce cas, je fais plus de cross-platform, là.
C'est vrai. Moi, c'est
exactement ça, la réalité.
Focus group pour une application d'une institution financière avec d'autres gens, quelques développeurs, des gens qu'on voit beaucoup sur Twitter. Et puis, dans les développeurs, quelqu'un a apporté, je pense que c'est Frédéric Harper, d'ailleurs, qui a apporté le point que l'application de cette institution financière-là est un encapsulage de la version mobile de leur site web. Donc, déjà, c'était problématique. Et la version mobile de leur site web avait été développée avec des UI qui se rapportaient à iOS. Ce qui fait que quand tu utilisais l'application sur Android, c'était un peu décevant parce que ce que ça te disait, c'est que l'institution financière se sacrait un peu de toi puis de ton utilisation, de ton choix de téléphone mobile parce que ce qu'elle te présentait, ben, c'est quelque chose qui appartenait à une autre plateforme mobile.
Et c'est ça en plus qui est vraiment un peu décevant parce que beaucoup de compagnies web se sont lancées dans des frameworks cross-platform basés sur HTML, JavaScript. Mais qu'est-ce qu'ils ont choisi comme paradigme de UI par défaut? iOS. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel framework à l'heure actuelle web qui est cross-platform. Première chose que tu fais quand tu lances une page et que tu fais une animation, ça slide de gauche à droite avec la navigation en haut. Donc en fait, ils ont reproduit iOS en web, c'est très bien, mais ton design n'est pas cross-platform non plus. Donc, si je veux utiliser ton framework et faire des panes qui slide différemment que sur Windows Phone, comment je m'en sers de ton framework?
Tu voulais, en fait, quand on a parlé, tu voulais nous parler un petit peu de Honeycomb, qui est la nouvelle plateforme de Android, la version 3.0, que Google aurait développé pour des tablettes. Moi, ce que j'avais compris, c'est que Android n'était pas le système que Google voulait que les gens utilisent avec des tablettes. Ils voulaient plutôt que ce soit Chrome OS. Donc, c'est un revirement de situation assez assez important de la part de Google, je pense. Tu veux nous en parler?
Ben, effectivement, là, on n'a jamais vraiment compris ce qu'ils voulaient faire avec Chrome OS, déjà. Et puis, en fait, la chose que je trouve toujours étrange avec Google, c'est pour une compagnie qui praise vraiment le browser et des choses comme ça, je trouve qu'ils sont vraiment app. Donc, pour une compagnie, ils auraient très bien pu se dire, OK, nous, finalement, c'est le browser, et puis Android, ça ouvre un browser, et puis nous, on fait tout
mais
dans le web.
Apple a essayé. Finalement, ils ont pris la route d'Apple. Puis ils se sont fait dire par tout le monde, vous allez vous péter la gueule, ou,
Je sais pas si c'était pas prévu. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pas eu le temps d'ouvrir le SDK et de faire le polish complet qu'ils auraient voulu. Je pense qu'ils avaient donné une solution intermédiaire, ils ont fait croire que c'était ça. Peut-être qu'honnêtement, ils ont voulu essayer, et puis finalement, ils se sont aperçus que sur ce genre de machine, c'est pas assez puissant. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bon, mais voilà, Google est parti sur la route du natif full speed. Apparemment, ils vont embaucher plein de gens pour faire des apps. Donc, bon, je sais pas trop ce qui va se passer. Mais j'ai vu la présentation de Honeycomb sur tablette. Donc, c'est sûr qu'ils prennent les mêmes stratégies qu'Apple. C'est plutôt qu'en fait d'essayer de scaler un OS qui marchait pas ou avoir des paradigmes UI qui marchaient pas sur une tablette à partir d'un OS téléphone. C'est la même base d'OS, mais ils ont inventé de nouveaux paradigmes qui sont applicables à un écran de tablette. Parce que prendre les mêmes composants que le téléphone et les scaler up à une tablette, ça marche pas. Donc, ils ont pris exactement la même approche qu'Apple en disant, OK, on est comme 3, une nouvelle bâche technologique et des nouveaux composants pour une tablette. Et moi, j'ai pas mal aimé ce que j'ai vu. C'est beaucoup plus de performance, des paradigmes intéressants, même si effectivement, on se retrouvait à avoir une copie pas mal d'Apple. Tu sais, il y a plein de choses qu'ils ont améliorées. Mais bon, finalement, on se retrouve quand même avec les paradigmes qu'a inventé Apple. Techniquement, ça avait l'air quand même bien supérieur à la plateforme actuelle. Beaucoup de meilleure utilisation de GPU, une utilisation aussi plus technique, tu vois, de la tablette, c'est-à-dire que elle va pas être intéressante peut-être pour tout le monde, tu vois, un iPad est très simple à utiliser. Pour beaucoup de gens, de gens techniques, ça manque de fonctionnalités, ils vont le trouver sur ce genre d'OS. C'est un peu plus technique, on va dire. T'as des notifications qui pop, on est plus proche d'un OS desktop.
Quand j'ai vu la présentation, j'avais l'impression que c'était t'ouvres des applications, puis t'as comme la section d'en haut sur laquelle l'application s'ouvre. Je pense que tu peux les déplacer un peu. Ça avait l'air plus la métaphore du bureau que métaphore complètement différente sur l'iOS, qui est une métaphore d'application. Est-ce que t'ouvres l'application, c'est pleine page, puis après ça, tu fermes l'application.
Exactement. Donc là, ils ont fait quelque chose qui est plus desktop OS, basé sur des widgets. Bon, ok, c'est sûrement utilisable et ça doit sûrement bien marcher, mais bon, ils n'ont pas inventé le concept non plus. C'est Apple qui a quand même mis les bases, tu vois. Même les gestures, ils ont les mêmes. Ouais. Les pinch, les zoom, les swipe. C'est Apple qui a quasiment inventé ça. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de révolution, quoi. La machine avait l'air de bien marcher. Puis bon, je pense que c'est une bonne direction. Il faut qu'ils choisissent un combat. Donc ils disent, nous, on est la plateforme ouverte et plus technique pour les utilisateurs avancés.
C'est une question, là, parce qu'on parle de Honeycomb, on parle du Zoom qui, au CES, était annoncé encore une fois comme le iPad killer. Pour ma part, je pense pas qu'il peut avoir de iPad killer. Il peut avoir un rebalancement du marché, parce qu'Apple a lancé ce pavé-là en disant, nous autres, on veut créer peut-être un nouveau besoin, puis ça a fonctionné. Là, les autres ont fait, bon, ça c'est un petit peu le fanboy intérieur qui parle, mais on va copier parce que ça semble avoir marché, parce qu'on n'est pas capable d'innover nécessairement. La tablette, c'est pas quelque chose de nouveau, là. Microsoft nous en parlait en 2001, mais ils n'ont jamais réussi à en vendre. Est-ce que c'est pas dommageable pour une compagnie d'essayer d'appeler son truc iPad Killer en pensant à Courrier l'année passée, ou au HP Slate qui a été annoncé, ou au Exo PC qu'on n'a toujours pas vu, qui sont des plateformes proposées en 2010 au CES et qu'on n'en a pas vu, ou en fait le lancement s'est fait à toute petite échelle. Mm-hmm. iPad Killer, ça existe-tu? Ça se peut-tu?
Ben, okay. Déjà, en fait, moi, je ne comprends pas que ces compagnies aillent sur cette voie. C'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils arrivent à faire leur marketing ou leur département communication ne l'indique pas, c'est une mauvaise idée. Mais c'est très, très ambitieux ou très, très présomptueux de dire que tu vas tuer une plateforme. Ils devraient se battre sur les features, ils devraient se battre sur de l'innovation, ils devraient même pas regarder Apple. Apple ne regarde pas les autres. Ils proposent un produit et ils essaient pas, là, de commencer à essayer de copier les commerciaux, de, tu sais, les clips de publicité d'une compagnie pour les tourner en dérision. Ils ont fait ça pour la campagne PC et Mac, mais c'était beau joueur, tu vois, ce que je veux dire. C'était beau joueur. Mais là, je trouve que c'est un peu pathétique de faire ça. Et là, ils ne gagnent pas en crédibilité de faire ça. Et après, effectivement, le problème, c'est que non seulement ça, c'est présomptueux, puis je ne pense pas qu'ils vont y arriver là-dessus. C'est la mauvaise façon de communiquer. Et puis deux, ils fournissent quoi? Ils fournissent une plateforme qui est souvent inférieure à Apple, souvent inférieure en prix, et avec souvent pas les mêmes features. Et c'est souvent des plateformes que moi, je trouve navrantes, qui n'ont absolument aucun suivi. Ils mettent ça sur le marché, et après... C'est fini. Pas d'update software.
Moi, j'appelle ça discontinué
au bout de 3 mois.
C'est comme si...
qu'est-ce qu'on fait, tu vois?
Chez Apple, il y a un développement, il y a une vision derrière le produit. Quand ils mettent un produit sur le marché, ils vont le pousser de toutes leurs forces.
Ben,
ils connaissent les forces de ce produit-là. Fait qu'il y a une âme derrière le produit, il y a une intention. Un peu ce que Google aussi, je trouve qu'ils ont ce mode de pensée-là.
Mais c'est ça, exactement.
Ailleurs, je vois pas ça. Je vois une coquille vide.
Ben, c'est exactement ça. C'est juste des gens qui reproduisent et puis c'est tout. Mais Google, c'est pour ça qu'eux, ils sont là. Et c'est pour ça que leur plateforme a avancé aussi. Tu vois? C'est sûr que c'est pas une organisation à but non lucratif. Donc, OK, ils font de l'open, mais ils font pas de l'open juste pour le...
Non.
Voilà, c'est ça. Bon. Ça, c'est, on va dire, ça, c'est le truc officiel. Mais le truc officieux, c'est pas du tout ça, quoi. C'est sûr qu'eux, ils veulent faire de l'argent avec ça. Mais par contre, ils ont quand même une vision de l'informatique qui est vraiment très connectée et, tout dans le cloud, qui est différente d'Apple. Et ils se battent avec ça. Et ça, moi, je trouve que c'est ça, j'ai pas de problème avec ça. Que d'autres se battent lamentablement en copiant le hardware en disant, regardez, achetez ça plus que l'iPad, mais ils ont aucun point intéressant, quoi. Aucun OS intéressant, aucun prix intéressant.
Aucun suivi de la plateforme. Nous, on fait du flash.
Aucun écosystème derrière
c'est
ça.
C'est par exemple pour le playbook de RIM. Sauf qu'il n'y a même pas d'application email. Si tu veux avoir tes contacts, il faut que l'appareil soit connecté à ton BlackBerry. On a du flash, mais c'est à peu près tout ce qu'on a que l'autre plateforme n'a pas, là. Donc,
Non, mais exactement. C'est exactement ça. Je trouve ça quand même pathétique que le seul argument qu'on ces gens-là,
c'est
nous,
on a flash. C'est quelque chose que notre compagnie a créé.
Ça veut dire non. En plus. Donc, en fait, c'est vraiment pathétique. Une compagnie qui m'aborde en me disant, ben voilà, nous, on a flash, mais... OK, ben donc vous avez rien, en fait. Si c'est votre seul argument, quoi. Tu vois? Parce qu'en plus, beaucoup de compagnies là, c'est pareil. Quel est leur écosystème derrière? Comment je vais charger la musique sur ces devices? Comment je vais acheter des films? Comment je vais synchroniser avec mes autres devices? Des choses à laquelle Apple a répondu à tout. T'as une solution pour tout et tout est intégré. On aime ou on n'aime pas. OK, mais elle est là, la solution. T'as iTunes, tu fais tout. Ces gens-là, Motorola, ils mettent le Zoom sur le marché.
Elle vient,
est-ce qu'ils ont iTunes? Comment je mets de la musique dessus? D'où elle vient? Tous ces constructeurs, aucun n'a une solution. Oui, il y a Google. Ouais. Oui, il y a Amazon. Mais quand j'achète le Zoom, je le démarre, je veux acheter de la musique, je fais quoi? Je veux mettre mes MP3 dessus, je fais quoi? Je le monte en USB, puis je glisse mes fichiers en vrac dans l'OS?
Des bonnes playlists, alors qu'il y a, tu sais, bon, il y a Genius, il y a un système dans iTunes.
Exactement.
Pour le faire.
C'est ça le gros problème. Microsoft, une compagnie qui a déjà tous ses outils et qui a déjà les écosystèmes. C'est pour ça que moi, je pense qu'ils ont un shot. Avec le Xbox Live, avec le Zune Market, et ils ont déjà les contacts, les partenaires, ils ont déjà le network et tout. Quand tu vas sur ta Xbox, tu peux regarder des films, les louer. Donc, ils ont la plateforme. Donc, eux, ils ont moyen d'avoir un écosystème complet connecté avec ta Xbox et tout. Les autres, ils n'ont rien. Une compagnie comme HTC, elle met des téléphones sur le marché, je fais quoi avec? La version d'Android que j'ai, elle n'a peut-être pas le store de Google. Je pense que la plupart des utilisateurs utilisent leur téléphone, ils n'écoutent pas de musique dessus. Hein. Ils utilisent leur téléphone, ils téléphonent avec leur téléphone Android, ils regardent une map.
Tu sais qu'Apple ne regarde pas les autres. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un secteur que Apple regarde et va chercher là-dedans, va piocher et va s'inspirer là-dedans. Ce serait le marché du jailbreak. C'est pas un marché en tant que tel, mais je veux dire, tout ce que j'ai vu qui a été fait dans le jailbreak, les raisons pour lesquelles ça a été fait, Apple a tranquillement tout rapatrié et Apple introduit tranquillement ces trucs-là.
Le dernier en date
dans 4.3, qui est le fait de transformer son téléphone en point d'accès. On était obligé de jailbreaker, d'utiliser MiFi pour faire ça. Google a décidé de le faire sur certains de ses appareils. Donc, Apple a comme été un petit peu poussé. Puis, il y a plein d'autres choses comme ça que, bon, au fur et à mesure, là, je vois arriver sur mon téléphone. Ah, OK, du multitâche, je peux faire ça maintenant. Du copier-coller, je peux faire ça maintenant. Apple l'a fait. Ouais. Pas que je dis que Apple a fait le copier-coller parce que le jailbreak l'a fait, mais il y a quand même quelque chose.
Mais tu sais, ils ont toujours regardé cette communauté-là. Quand, en fait, l'iPhone est sorti, il y avait quelqu'un qui avait jailbreaké, qui a commencé à faire des apps sans avoir la documentation et tout. Il avait fait Lights Off, un petit jeu. Et cette personne-là était embauchée chez Apple pour faire les premières apps. Donc, en fait, ils ont toujours regardé un peu cette communauté-là. Et la chose qui m'amuse là-dessus, c'est que la communauté de jailbreak sur iPhone, qui n'est pas officielle, elle est extrêmement productive et elle fait des choses d'extrêmement bonne qualité. Et Apple, ils ont un peu laissé tomber ça, essayer de jailbreaker. Ils laissent un peu tomber. Ce qui est amusant, c'est que je trouve la communauté de jailbreak iPhone plus active que la communauté open source Android. Est-ce que moi, sur mon Nexus One, je peux installer une autre version d'Android que j'ai téléchargée sur le web avec des nouvelles features pour développer les hackers de la communauté? Non, c'est nulle part, ça. Je trouve quasiment rien. Et puis, en plus, ça fait même pas presse. La communauté jailbreak, à chaque fois, quasiment chaque semaine, j'entends des choses de la communauté jailbreak iPhone qui ont fait des nouvelles UI pour switcher entre les apps, des choses comme ça. Et j'entends rien parler de la communauté Android. Rien de significant, en tout cas.
On peut booter un Android avec iOS.
Ouais, bon. C'est sûr. Mais c'est vrai que non, Apple regarde ces choses-là, ils sont toujours curieux, hein, ça c'est sûr.
Je voulais parler un petit peu des API, parce que bon, ce matin, j'ai vu une news passer comme quoi Instapaper, qui est quand même une application assez utilisée, un concept assez utilisé sur le iPhone, a sorti une API. API, bon, Facebook en a, Twitter en a, Foursquare en a. Puis, ça semble être quand même un bon Eldorado quand il y a une API, en fait, de développer pour un service. On dirait que les développeurs sont tout le temps contents. Ils peuvent aller piocher là-dedans. Donc, peut-être nous parler un petit peu de cette nouvelle-là ou plus généralement d'API.
Ben, Instapaper, je n'ai pas regardé leur dernière version, mais je sais qu'ils ont toujours eu une API. C'est pour ça qu'Instapaper, ce que ça lui a permis de gagner, c'est des parts de marché. Pourquoi Instapaper est devenu connu? Parce que finalement, il a été intégré dans plein de services. Dans le client Twitter officiel, il y a une intégration Instapaper qui est là depuis le début. Et c'est ça qui lui a permis finalement de gagner des parts. Et c'est des API qui permettent au service justement d'avoir une communauté de développeurs. C'est ça finalement, c'est ça l'idée, c'est de construire un écosystème. C'est ce que fait Apple, c'est ce qu'essaie de faire Google, c'est ce qu'essaie de faire les autres. T'as un écosystème dans lequel tu fournis sur ta plateforme, que ce soit des SDK pour un téléphone ou des API, c'est des SDK pour construire d'autres choses. Et là, tu as de la communauté et t'as un écosystème qui est vibrant, c'est qui avance. Twitter a grossi à cause de ça. Grâce à ça. Donc ça, c'est vraiment souvent des très bonnes stratégies d'ouvrir les données. Mais tu vois, par exemple, avec qui on a travaillé, Yellow Pages, ils ont ouvert aussi leur API. Ils ont ouvert ce qu'ils appellent la Yellow API. On peut y aller. Et puis, en fait, on peut piocher dans les millions
est-ce qu'il y a du développement qui est fait avec cette API-là?
Ah oui, ça marche. Okay. Mais en fait, tu vois, par exemple, leur business model, c'est si tu montres des marchands, on te paye. Donc, si tu intègres nos listings chez toi, on va te payer, tu vois. Donc, en fait, il y en a qui ont des business models autour de leurs data. Les data sont pas revendues. Ouais. Au contraire, ils payent les développeurs pour les montrer. Un peu comme Google fait avec AdWords. Google paye les gens.
Ou c'est quelque chose d'autre?
Je pense que c'est un peu différent, mais bon, tout le monde avait essayé de créer un peu le même genre de communauté autour de ça, et finalement, ça s'est fait autour des API. Et en fait, parce que ça permet de composer un peu le web et de pas être dans des silos fermés. Là. Même si les data t'appartiennent pas, hein, tu vois, c'est ça le truc. Hein. Tu vois, parce que Facebook, c'est même si tu utilises ton API, les data ne sont pas chez toi, hein, elles sont chez Facebook. Mais c'est ce qui a permis aussi à Facebook de se transformer d'un website destination à une plateforme avec un écosystème d'applications, des gens qui font de l'argent avec cette plateforme-là, et puis beaucoup d'argent, exactement. Donc c'est ça, je pense qu'un des gros moves de Facebook, par exemple, c'est de se transformer en plateforme. Dès qu'ils ont sorti les apps, c'est devenu un écosystème, comme sur iOS. Les gens,
parlant
les développeurs sont
d'argent,
là parce qu'il y avait un business deal derrière.
Question,
il y avait le moyen de faire de l'argent.
On va être obligé de présenter l'entrevue en plusieurs morceaux, j'imagine, parce que tout est intéressant. On fait de l'argent sur la plateforme iOS. Est-ce qu'on fait de l'argent sur la plateforme iOS, puis est-ce qu'on en fait sur Android? Est-ce qu'on en fait autant?
Nous, en fait, on n'a pas de vente directe parce que beaucoup de nos clients ont des applications gratuites, mais on a aussi d'autres amis là, qui font des applications. Et effectivement, là, pour l'instant, c'est iOS la plus rentable parce que y a beaucoup de gens, comme je te disais, l'histoire de confiance qu'ont les gens pour acheter une application. Puis surtout, il ne faut pas oublier la puissance d'iTunes, c'est-à-dire tous ceux qui ont un iPhone ont un compte iTunes, dont la plupart ont une carte de crédit. Donc, tu fais un one-click buy sur Google, tu te fais un compte Google Checkout, que t'as pas déjà. Moi, j'ai déjà essayé d'acheter les apps, on me demande d'entrer mon numéro de carte de crédit. Si l'application était plus seamless, peut-être avec le store d'Amazon qui va ouvrir aussi, dans lequel tu serais connecté à ton one click buy de chez Amazon, il y aurait peut-être plus d'insight pour acheter. Alors actuellement, je trouve
pour
que la plateforme
l'accroche
un peu sur les bords.
Pas,
tu vois. Pour l'expérience d'achat, il est pas génial. Voilà, mais après c'est un problème de qualité, tu vois. C'est sûr que là, personne ne dira le contraire que sur Android. Comme on peut mettre à peu près ce qu'on veut, on a à peu près toutes les qualités. Et souvent, tu vois, c'est ce que disait John Gruber. Si tu regardes les applications les plus téléchargées sur Android, c'est Task Manager. À côté, t'as Angry Birds, t'as Infinity Blade, t'as des jeux super high-end ou Dead Space sur iPad. Sur Android, t'as Task Manager et puis, tu sais, des trucs super geeky.
Fait que est-ce qu'Android,
donc,
en
pas,
quelque part, s'adresse
pas,
parce qu'on parlait qu'Android était Linux,
t'es même pas dans le même monde.
Si on veut. Donc. On parlait au début qu'on avait trois grands joueurs, Windows, Apple et Linux. Donc, est-ce que, justement, la plateforme Android risque pas d'être pour les geeks? La plateforme Apple s'est imposée un peu comme l'iPod s'est imposé. Donc, j'imagine que ça risque de rester le gros joueur. Puis Windows qui va essayer d'aller chercher des parts de marché à l'intérieur de tout ça. Je sais pas trop comment, avec l'innovation, peut-être en réfléchissant plus.
Moi, je pense que c'est sûr qu'Android, de toute façon, avec le nombre de devices qu'ils ont sur le marché, ils ont vraiment un gros marché adressable. Enfin, pas forcément adressable. Ils ont beaucoup d'une base d'installation qui est énorme. Mais le marché adressable pour un développeur, c'est ça qui rend la plateforme difficile à utiliser et à vendre. Moi, si je veux utiliser Android, il faut au moins que je sois à l'OS 2.1. Donc déjà, je vais réduire mon marché à un fragment. Et à l'intérieur de ça, il faut que des gens...
2.3, Froyo, qui est la dernière version, c'est 0.4% des gens. Donc, on a une séparation. Ouais. On a beau vendre plus de téléphones Android que de téléphones iOS, il y en a seulement 25% qui sont adressables.
Exactement. Okay. Et sur ces 25%, il faut des gens qui ont une carte de crédit et dont tu as la confiance. Okay. Donc, le marché adressable lucratif pour les développeurs, il est tout petit. Il n'est pas égal à un device.
Oui.
C'est ça le problème. Alors que sur iPhone,
pas vraiment le choix,
généralement, un device égale un compte iTunes.
Okay.
Donc, eux, leur marché est quasiment adressable à 90%. Surtout, là, il y a moins de fragmentation de plateforme. Donc, en fait, la plateforme est vraiment adressable dans son ensemble.
Ouais.
Je peux adresser, moi, l'iPhone 2G en faisant une application. J'aurais pas de problème, ça va marcher. Là, à l'heure actuelle, si je dois adresser le premier Google Phone qui est sorti avec 1.6, ça, c'est impossible.
iOS,
ou 1.5.
Ça fonctionne coup-ci, coup-ça sur l'iPhone 3G, le premier qu'ils ont sorti. C'est possible de faire une application, sauf que ce téléphone-là ne sera pas la dernière version du système d'exploitation.
Parce qu'en fait, on a trois noms. Ici, on a des devices 3 et puis on est capable de faire tourner nos applications full speed. C'est sûr qu'il faut bien les designer. C'est sûr que quand on teste, nous, une application, on les teste sur tout le range des téléphones. On va tester sur un iPhone 2G. Et généralement, quand on fait des applications qui sont un peu intensives, on les fait d'abord tourner sur le téléphone 2G correctement.
Ce qui assure que...
Et puis après, ça veut dire qu'ils vont tourner très bien sur l'iPhone 4. Généralement, on n'a vraiment pas de problème là-dessus. On n'a pas de problème. Mais c'est juste ça la problématique avec Android que je trouve, c'est que le marché, on a des fausses promesses. On nous dit, voilà, on a vendu tant de téléphones, mais le marché adressable réel pour les développeurs dans lesquels ils ont une zone dans laquelle ils peuvent compter se faire de l'argent, okay. elle est assez faible.
C'est intéressant, un tiers du market share. Ce qu'on nous sort dans les médias, c'est Android vient de dépasser iOS.
Ça, en termes d'unités vendues, ça c'était évident.
C'est drôle, ça me fait penser, il y a quatre constructeurs, pendant un bon bout de temps, il y a eu beaucoup plus de Wii dans le domaine du jeu vidéo. Des consoles, oui, de vendues que les deux autres consoles, mais sur le long terme, on se rend compte que la Wii, c'est un petit peu limité, vu que ça s'adresse aux jeunes, les jeux sont à peu près tous les mêmes, c'est bien beau contrôler avec une manette, mais bon, il manque de viande à long terme, alors que bon, les deux autres consoles commencent à, même si ça fait un bon bout de temps que ces consoles-là sont sorties, on voit qu'il y a quand même une émergence du Xbox pour Internet, du PlayStation 3. Ça me fait penser un petit peu, en fait, à l'essoufflement de cette console-là.
Mais tu vois, pour moi, c'est un peu ça les challenges là, qu'il va y avoir. Mm-hmm. Et Microsoft, ils ont quelque chose à jouer parce qu'ils ont une plateforme, tu vois, que les développeurs connaissent bien, c'est du Windows. Les développeurs de jeux la connaissent très bien, ils ont des partenaires forts et ils ont de quoi faire quelque chose qui serait aussi clean que sur iPhone. C'est avoir un marché dans lequel les gens ont confiance et puis ils ont déjà un écosystème dans lequel ils pourraient faire la facturation. Avec ton compte Xbox Live, tu as déjà tes cartes de crédit. Je pense que tu pourrais faire un tableau en traçant à côté des services
qu'ont Apple. Ce que j'ai entendu, c'est que Zoom, l'application Zoom Music ou Zoom Marketplace, pas Zoom Marketplace, mais l'application musicale de la Zone était vraiment très, très bien faite. J'en entends des bons commentaires.
Ouais, c'est vraiment pas bien. Honnêtement, ils ont fait vraiment un gros effort au niveau de design. Ils avaient besoin. Et en fait, ils sont repartis quasiment de leur culture, de la partie Xbox pour faire un téléphone avec, quoi. Plutôt que de partir de Windows, tu vois. Ça ressemble plus à la Xbox qu'à Windows. Mais ils ont quelque chose à jouer. Ils sont pas morts. Mais c'est sûr que Android va inonder le marché. Mais est-ce que les clients qui ont ces téléphones-là sont aussi des acheteurs? Comme les clients d'iPhone sont des acheteurs. À l'heure actuelle, les chiffres montrent que c'est absolument pas le cas.
Google a tout ce qu'il faut pour offrir la qualité d'une application GPS. Ils l'ont fait. La journée où ils ont lancé cette application-là, si je me trompe pas, les actions de Garmin et des compagnies GPS ont plongé sur le marché. Sauf que de l'autre côté, sur iOS, il n'y a pas nécessairement cette application-là aussi poussée. L'application Map est aussi fournie par Google, mais ça permet à d'autres développeurs, entre autres Navigon ou TomTom, de vendre des applications, donc de développer puis d'avoir un autre marché, ce qui est sain, en fait.
On va voir ce que va faire Apple derrière. Il pourrait tout à fait sortir un système de navigation, mais bon, finalement, pourquoi faire?
Ils ont acheté, en fait, il y a des acquisitions qui ont été faites l'année passée qui laissent penser que peut-être ils voudraient faire quelque chose comme ça. Entre autres, Polynine, qui est une compagnie du Québec, qui a été achetée, qui est spécialisée dans l'ajout de données dans les cartes. À ce moment-là, peut-être qu'Apple veut améliorer de ce côté-là.
C'est possible. On sait, des fois, c'est difficile de lire dans leur boule de cristal.
Oui.
Mais surtout, quand ils se lancent dans un domaine, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent le conquérir complètement. Donc en fait, s'ils se lancent dans la navigation, c'est qu'ils vont sortir des features qui n'existent nulle part ailleurs. Tu vois, ils sont pas simplement du mapping, il y aura forcément quelque chose d'autre.
Okay.
Ils vont pas sortir quelque chose qui ressemble à Navigon ou à TomTom.
Effectivement. Pour être sûr de bien prendre un gros morceau de ta journée, j'aimerais ça peut-être prendre un petit moment pour parler de iOS 4.3. Si c'est possible, est-ce qu'il y a encore un embargo sur ça? Je sais que c'est juste développeur en ce moment. Fait qu'on peut pas en parler.
C'est vrai qu'on a un peu regardé, mais bon, c'est effectivement, je fais même plus attention un peu au NDA.
Okay. Hein.
De toute façon, là, il n'y a rien de plus là-dedans que ce qui a déjà été révélé à la presse.
Okay.
Pour nous, de notre côté, on n'a pas vu vraiment de gros trucs. Il faut vraiment aller fouiller dans le SDK pour trouver des traces de ce que pourrait faire Apple. Mais Apple sont prudents. Ils ne packagent pas quelque chose qui n'est pas prêt. Donc, c'est-à-dire que si tu regardes dans les API publics, il y a des bug fixes, des petits ajouts, mais rien de ce qu'ils n'avaient pas annoncé.
OK. Donc, c'est intéressant. API public, API privé que Apple peut utiliser, mais qui n'autorise pas nécessairement les autres à utiliser parce que toutes les fonctionnalités ne seraient pas bien optimisées puis prêtes à donner dans les mains d'un développeur. Ils savent ce qu'ils peuvent faire avec.
Exactement. Puis, non, mais surtout qu'en plus, quand eux, ils réalisent un SDK, ils t'exposent les API petit à petit.
Okay.
Donc, tu vas avoir la bêta 1, bêta 2, bêta 3, et à chaque fois, tu as des petits ajouts. On a ajouté telle fonction. Donc, jusqu'au dernier moment, t'as peut-être pas tout le package complet.
Okay. Parce que justement, sur Internet, ce qu'on voit, c'est des gens qui ont fouillé, qui ont trouvé, par exemple, des traces pour Find My Friend, qui serait un système pour trouver ses amis, un peu comme Latitude, le service de Google. Il y a pas longtemps, je voyais peut-être des traces pour streamer des jeux vidéo du gaming on live, du gaming streamé, je pense, sur le téléphone. À ton expérience, à toi, est-ce que c'est parce qu'on voit des traces dans 4.3 que ça va arriver dans 4.3. On a vu des traces, par exemple, d'API privé dans la version 3.0, puis c'est arrivé seulement en production avec la version 4 de l'iOS.
Donc, pour l'instant, bah, je pense qu'en fait, ça ne garantit pas que ça va arriver dans cette version. Okay. Peut-être qu'en fait, c'est des in pour dire qu'ils sont en train d'expérimenter quelque chose ou ils font des tests en interne là-dessus. Okay. Mais c'est, ça ne donne vraiment pas de... Ça donne moi aucune information sur la date de release ou exactement ce que c'est. Des fois, on a aussi vu des choses qui ont été retirées.
Ok, tu oui. vois,
ils n'auraient pas voulu packager ça. C'est peut-être quelque chose qu'ils expérimentent, mais bon, finalement, ils vont pas le faire. Je pense qu'ils expérimentent beaucoup de choses, mais tout n'arrive pas dans la release finale de toute façon. Okay. Donc oui, on peut estimer des choses sur lesquelles ils s'intéressent eux, mais de là à dire qu'ils vont le sortir, c'est vraiment pas obligatoire. Mais on a toujours des surprises.
Ben, c'est,
on a toujours des surprises avec.
C'est avec Apple, c'est think different, donc c'est sûr qu'il y a toujours des surprises. Ça va terminer notre entrevue pour aujourd'hui qui était super intéressante, mais je pense que ça valait la peine. Tu nous as bien éclairé. Puis c'est toujours le fun de creuser un peu dans ce domaine-là du développement, de voir ceux qui fabriquent tout ce que nous on utilise avec le téléphone. Je pense que les auditeurs de Mac Québec vont être bien contents de cette
J'espère. Ça m'a fait plaisir en tout
Parfait.
Cas.
Parfait. Ben, merci beaucoup.
Ben, merci à
Salut
toi.
Bien, Frédéric.